Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Isabelle Santiago, députée socialiste du Val-de-Marne. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Isabelle Santiago, vous êtes vice-présidente de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale. Quelle analyse faites-vous de la situation en Ukraine ?
Je crois que la situation, beaucoup de Français, après j'ai la chance d'avoir eu accès évidemment à des informations au travers de mon mandat de député et de membre de la Commission de la Défense, je crois que la situation est très grave, qu'elle doit nous alerter, y compris sur le plan, bien évidemment, géopolitique des événements, et en prendre la mesure. Je trouve qu'actuellement, il y a, je dirais, malgré que nous sommes dans une période de présidentielle, ça rend les choses extrêmement complexes. Il y a, de toute façon, un intérêt général à être tous soudés derrière l'action que porte le président de la République, ce qui a démontré d'ailleurs à la manifestation de Place de la République ce samedi, que l'ensemble des leaders, enfin politiques, ont fait attention à montrer des moments d'unité. Voilà. Alors ça n'empêche en rien le débat sur la présidentielle, qui ne doit absolument pas, puisque c'est un projet de société pour la France, qui doit être dans un cadre, bien sûr, démocratique. Pour autant, nous vivons des heures sombres pour l'Europe, et il est nécessaire d'avoir cette conscience et cette unité. Les images que l'on voit aujourd'hui sont terribles, et il est essentiel de garder à l'esprit cette unité.
Isabelle Santiago, vous parlez d'unité. Pour autant, qu'avez-vous pensé des déclarations de Jean-Luc Mélenchon, qui à Lyon a souhaité que la France soit non alignée? Il a par ailleurs accusé le président Hollande et le président Macron d'avoir déclenché la guerre au Mali.
Oui, bah, écoutez-moi, sur ces interprétations-là, qui sont des visions... je pense dangereuse en pleine période, comme je l'évoquais à l'instant, c'est-à-dire qu'on est dans une présidentielle, et bien sûr que chaque leader, dans cet instant de grande gravité, doit aussi pouvoir s'exprimer. Donc du coup, si je ne partage pas du tout le point de vue de Jean-Luc Mélenchon, pour autant je le respecte dans le cadre de ce qu'il pense lui, c'est-à-dire que en effet, moi je ne suis pas sur cette vision-là, je ne la partage pas, mais pour autant, son expression est libre. Et je crois que d'ailleurs, la démocratie, si elle est souvent critiquée, avec ce que l'on voit aujourd'hui, avec cette guerre en Europe et l'action que fait Poutine, et y compris contre le peuple russe, eh bien on voit que la démocratie, elle reprend tout son sens quand on voit qu'il y a des personnes qui sont des dictateurs et qui empêchent leur peuple de s'exprimer. Donc c'est pas moi qui participerai au débat et à la controverse, même si bien sûr, je vous le dis, moi politiquement et sur le plan géopolitique, je ne partage pas l'analyse de Jean-Luc Mélenchon, mais il a le droit de l'exprimer.
Alors Isabelle Santiago, en ce 8 mars, avez-vous le sentiment que la situation des femmes en France a progressé sous le quinquennat d'Emmanuel Macron ?
Des choses ont avancé, mais pas tout. Et je crois que il est très important de s'engager de manière très forte. Moi, je fais partie moi-même depuis 18 mois que je suis à l'Assemblée nationale, à avoir participé très activement à la question justement sur les femmes. Si on ne prend que la question de l'égalité homme-femme, il reste encore beaucoup à faire, et je pense que à l'époque, en 2017, il disait qu'il voulait tout changer, les vieux schémas et les méthodes qui pouvaient être anciennes sur une vision de politique publique, et qu'ils allaient renverser la table. Pour résumer la situation, bon, ils n'ont rien renversé du tout, parce qu'en fait, il reste encore beaucoup à faire et on ne va pas assez loin. Après, si on prend les sujets sur lesquels moi j'ai beaucoup travaillé, qui sont les violences faites aux femmes, on peut pas se satisfaire de la situation, loin de là. J'y ai participé, y compris dans des amendements votés à l'Assemblée nationale qui ont été pris à l'unanimité, donc je m'en félicite dans certaines lois, de pouvoir faire avancer quelques points saillants et importants. Mais aujourd'hui, sur une présidentielle, c'est un enjeu majeur. La société, elle doit avancer sur ce qu'on demande, c'est-à-dire 1 milliard pour les violences, pour la lutte contre les violences faites aux femmes. On en est très très loin. Le budget, même s'il avait été un petit peu augmenté, en fait, il a été plutôt réduit si on le regarde de manière transversale sur les politiques publiques concernant ces actions-là. Et par ailleurs, on oublie souvent que quand on parle de violences faites aux femmes, la plupart du temps, on est aussi avec des familles, donc des enfants. Aujourd'hui, le psychotrauma permet de voir les dégâts que ça peut faire et de mieux le comprendre par les neurosciences, la problématique du développement de l'enfant qui vit dans ces milieux familiaux. Et donc, il nous faut des tribunaux spécialisés. Nous devons avoir un modèle à l'espagnol, même si, bien sûr, le modèle français peut être revisité. Mais en tout cas, on doit tendre vers quelque chose qui est beaucoup plus rapide, avec des tribunaux et des magistrats spécialisés. On doit encore changer beaucoup de choses dans les textes de loi de manière très concrète pour que il n'y ait plus tout ce que l'on connaît et qui peut être de manière très concrète quand il y a des modes de garde qui peuvent être encore parfois donnés avec des visites médiatisées à des enfants qui en fait ne veulent plus voir la personne qui a été violente vis-à-vis de leur mère. Et donc dans de nombreuses procédures, on voit encore des décisions de justice qui, si je ne les remets pas en cause, puisque la justice n'a pas à être remise en cause une fois qu'elle a donné son acte, pour autant, il faut modifier cette façon de voir la famille et de regarder, je l'ai souvent dit à l'Assemblée, pour résumer, je dis un conjoint, un mari ou un ex-conjoint qui frappe sa femme n'est pas un bon père. Donc il faut que le schéma familial protège l'enfant et protège la femme, et ça c'est l'essentiel. Aujourd'hui on en est encore loin, il reste beaucoup à faire, et moi j'y participe activement, et y compris dans l'intérêt général, quand il y a eu des textes qui ont permis de faire des amendements. Je ne suis pas dans la majorité, mais j'ai su proposer des amendements qui ont été retenus, et ça je m'en félicite, pour que l'on puisse justement faire avancer la cause des femmes.
Isabelle Santiago, vous travaillez depuis de nombreuses années sur l'enfance en danger, et durant votre mandat de députée, vous avez porté un texte sur la question des violences sexuelles subies par les enfants. Aujourd'hui, les enfants sont davantage protégés ?
Alors, merci de rappeler que j'ai fait voter du coup le premier texte de loi tout de suite en arrivant, d'ailleurs, donc 3 mois après mon arrivée, fort de mon expérience de 10 ans vice-présidente à la protection de l'enfance. Donc un texte concernait en effet les violences sexuelles et l'inceste. Premier texte concernant ce sujet-là, donc évidemment ça fait écho à quelque chose qui était attendu dans la société, mais il reste là aussi beaucoup à faire, parce que voter une loi c'est une chose, mobiliser la société c'est aussi, à travers MeToo Inceste, ça a permis de lever une chape de plomb sur quelque chose qui en France était dû et tabou. Mais après, il faut pouvoir repérer les enfants, les accompagner. Et quand on part du national vers le local, vers les territoires, nous avons là encore énormément de gaps pour arriver à faire le repérage dès le plus jeune âge, et puis former les personnes à ce repérage. Et ça, c'est très très important. Là, ce matin, je sors justement de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance dans le Val-de-Marne, où nous abordions toutes ces questions-là pour les décliner du national vers les territoires. Il n'y a que comme ça que nous pouvons travailler à l'intérêt de l'enfant. Et quand on connaît les chiffres, il est plus qu'important de modifier, y compris les textes de loi, ce que va faire aussi la commission Stévis qui travaille sur ces questions avec le juge Édouard Durand. Et les membres font des propositions qui devront irriguer des nouveaux textes de loi. Mais une fois que la loi est votée, je vous dis, il faut qu'on puisse l'appliquer, le repérer à travers des professionnels qui sauront, y compris, accompagner les enfants et repérer, et surtout libérer cette parole de l'enfant.
Isabelle Santiago, vous êtes très sensible aussi à la question du handicap. La majorité sortante a refusé de déconjugaliser l'allocation adulte handicapé. Ce sera un de vos combats si vous êtes réélue députée en juin prochain ?
Oui, ça reste, oui. L'enfance en danger, les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, la question du handicap, le champ social, médico-social, reste mes grands combats pour lesquels il y a encore beaucoup à faire. Et ça, oui, ça restera. Moi, je trouve que c'est une tâche dans le cadre de l'action que portait le gouvernement. Il y en a plusieurs, mais celle-ci, je n'ai absolument pas compris les arguments de la ministre qui nous expliquait sa version sur cette demande qui est faite par tout le monde. Et c'est pas que des parlementaires. C'est l'ensemble de la société qui est concernée. Les associations le demandaient. C'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable quand il y a une résistance aussi forte alors que l'ensemble de la société a trouvé pas un compromis. C'est une demande plus que majoritaire et qui est là aussi qui va dans l'égalité puisque c'est le 8 mars. Eh bien, en fait, pour une grande majorité, les femmes devaient avoir ce droit qui leur était accordé à travers la problématique, bien sûr, du handicap. Et là, vraiment, pour moi, ce sont des éléments très fondateurs sur une très grande différence que nous portons de vision de la société dans l'accompagnement des personnes handicapées. Mais pour autant, j'ai de grands combats aussi pour accompagner l'autisme en France. Il nous reste beaucoup à faire sur cette question de l'autisme où nous sommes très en retard malgré soi-disant des plans. Ce n'est pas vrai dans nos territoires. Il n'y a pas de place pour accompagner les enfants porteurs de troubles autistiques. Il y a des méthodes qui existent en Israël, au Canada, partout, qui sont de bonnes méthodes. Nous, on a des personnels, y compris dans les écoles, qui n'accompagnent pas les enfants de bonne manière parce que les gens ne sont pas formés. Le statut des AESH devra être revu. En fait, voilà, j'ai quasi un programme.
La question justement des enfants autistes, vous avez le sentiment que c'est un manque de moyens ou un manque de conscience de ce qu'il faut faire ?
Je crois que c'est... Alors, c'est peut-être une vision qui... Si je peux peut-être remettre ça en perspective, c'est-à-dire, je crois que c'est... Il y a un mélange un peu de plusieurs choses. C'est-à-dire que, un, il y a la difficulté d'ordre national, de moyens, premièrement. Ça, c'est très important. La deuxième, c'est que l'organisation territoriale de la France et de son administration doit, avec la décentralisation, doit intégrer un maillage qui est national et départemental. Donc, l'action autour de l'autisme, elle doit se concevoir avec... un pôle qui fait participer les départements et qui fait participer l'action de l'État avec des moyens très importants pour pouvoir irriguer dans nos territoires la formation au plus près des personnes qui vont pouvoir s'occuper des enfants. Ouvrir des centres et des accueils comme des centres de répit ou des accueils de jour. Il doit y avoir des centres d'accueil pour les enfants, mais qui sont de... Je vous dis un peu à la méthode québécoise, c'est-à-dire de manière inclusive avec des gens extrêmement bien formés, ce qui, à ce stade, au moment où on se parle, n'est pas le cas. Il existe ici ou là, en France, il y aura toujours des petites pépites, des gens qui font des choses formidables, mais ce n'est pas irrigué de manière nationale via un partenariat étroit avec les départements, puisque du coup, dans le cadre du handicap, bien sûr, la MDPH est aussi départementale. Il y a tout ce maillage à faire. L'éducation nationale doit avoir une action très forte avec des gens formés pour que les personnels AESH puissent accompagner pour beaucoup des enfants dans ce qu'on appelle les TSA et donc dans ce trouble du développement. Et ça ne peut se faire qu'avec quelque chose, entre guillemets, d'apaisé où on met tout le monde autour de la table et on y met des moyens et surtout des nouvelles pratiques, puisqu'elles existent, de prise en charge qui sont adaptées aux enfants porteurs de troubles autistiques. Mais on doit accompagner les familles. On ne peut plus continuer comme c'est le cas actuellement, y compris en protection de l'enfance, où un quart des enfants en protection de l'enfance sont des enfants porteurs de handicap, parce que souvent, il n'y a pas de place pour les accueillir. C'est mon plus grand scandale à chaque fois que je portais quand j'étais vice-présidente, parce que ces enfants n'ont rien à faire en protection de l'enfance.
Isabelle Santiago, vous soutenez la candidature d'Anne Hidalgo à l'élection présidentielle. Pour l'instant, oui. Sa candidature ne décolle pas, si l'on en croit les sondages. De nombreux électeurs du PS déclarent vouloir voter pour Emmanuel Macron. L'entrée du président de la République dans la campagne, cela va-t-il permettre de montrer les différences entre la candidate socialiste et le président sortant ?
Alors, dans la configuration dans laquelle on est actuellement avec la guerre en Ukraine, on voit bien que les messages sont complexes. On sort d'une crise de Covid, on a une présidentielle, tout ça rend les choses pas simples. Pour autant, moi, je trouve et je participe auprès de Anne Hidalgo. Aujourd'hui, on va dire que sa parole est peu entendue, ce qui donne ce que vous évoquiez, les sondages. Mais quand on est sur le terrain et qu'on discute avec les personnes de politique publique, de qu'est-ce qu'on veut comme projet pour la France, mais aussi bien sûr la France, elle n'est pas seule, elle est dans l'Europe, et on voit aujourd'hui les enjeux géopolitiques et de stratégie, y compris énergétique, et les questions, les grandes crises, hein, et le pouvoir d'achat, mais aussi la question du climat. Et donc on doit avoir une vision extrêmement globale et internationale, et redescendre après vers le territoire. Et Anne, elle a cette vision-là. Elle le porte très très bien. Et du coup, après, la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que ça passe pas trop le mur du son. Mais je ne désespère pas, et en tout cas, je suis à ses côtés fidèlement, parce que je suis une socialiste engagée sur mes valeurs, on va dire, de justice sociale et d'émancipation.
Et de la même manière, vous avez espoir que les socialistes constituent un groupe plus fort à l'Assemblée qu'en 2017.
Donc, bien sûr, ça je le souhaite. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis arrivée en cours de mandat. Hein, je n'étais pas élue en 2017. Je suis arrivée en septembre 2020 suite à une élection partielle. Oui, j'ai vraiment bon espoir et en tout cas, je le souhaite vivement que la gauche puisse avoir le Parti socialiste, mais la gauche puisse avoir des groupes parlementaires qui permettent de porter cette vision moderne de la société dans son ensemble et sur les problématiques qui sont posées. Et à l'échelle de nos territoires, on sait ce que c'est la gauche, la droite. En marche, on ne sait pas parce qu'il y a peu de gens d'élus de territoire. Ils ont une assise à l'échelle nationale, mais pas dans nos territoires, très peu. Et donc, du coup, je crois que cette vision du local vers le global, elle me semble essentielle. Et franchement, la politique, quand c'est une politique publique, qu'elle est portée en direction des citoyens, qu'ils la voient se mettre en œuvre, voilà, je crois que ça redonne des couleurs à la vie politique et on en a vraiment besoin. Et moi, je porte cette valeur-là.
Merci Isabelle Santiago, je rappelle que vous êtes députée socialiste du Val-de-Marne. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.